Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, mardi 19 mars 2019. Et comme d'habitude, nous allons présenter quelques programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire aujourd'hui et aussi mon Indonésie. Et comme d'habitude, nous allons également présenter magazine culturel Apprendre l'Indonésien et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, écoutons maintenant le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La commémoration de l'heure de la Terre 2019 est centrée à l'aéroport Sultan Hasanuddin. Mahyudin apprécie les personnes handicapées pour se joindre à la socialisation des quatre piliers de MPR. Le ministère de l'Industrie a dit le marché indonésien de meubles avait attiré les consommateurs du monde entier. PT Angkasa Pura 1 et le Fonds mondial pour la nature de l'Indonésie établissent une coopération en éducation environnementale. L'Institut indonésien des sciences, l'IPI, propose une collaboration pour accélérer la numérisation des travaux scientifiques. Le pavillon indonésien nommé la meilleure du Salon des fleurs de Hong Kong. Voici le journal complet. PT Angkasa Pura 1 pour la mise en œuvre de l'heure de la Terre 2019 est centré en atteignant l'électricité à l'aéroport international Sultan Hasanuddin de Makassar le 30 mars 2019 de 20h30 à 21h30 heure locale. Faik Fahmi, directeur général de PT Angkasa Pura 1, a déclaré lundi à la presse à l'aéroport international Angusti Ngurah Rai à Bali à la suite de la signature d'un mémorandum d'accord sur la coopération de conservation et d'éducation environnementale. Selon Faik, tous les passagers d'aéronefs, les communautés et les parties prenantes devraient participer au succès des activités de l'heure de la Terre en éteignant des lumières ou du matériel électronique inutilisé le 30 mars 2019 pendant 1h à 20h30 heure locale. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, Mahyudin, a été hautement apprécié pour la présence de personnes handicapées dans la socialisation de quatre piliers de MPR. C'est ce qu'a affirmé Mahyudin lors de la socialisation sur Pancasila ou les cinq principes de l'État, la Constitution 1945, l'État unitaire de la République d'Indonésie et l'unité dans la diversité ou Bhinneka Tunggal Ika à l'Association indonésienne des femmes d'affaires indonésiennes. Les jeunes générations et 30 personnes handicapées à Samarinda, Kalimantan Est, dimanche, le 17 mars. Selon Mahyudin, l'événement a non seulement permis de mieux comprendre les quatre piliers, mais a également sensibilisé les gens à l'unité et à l'intégrité de la nation indonésienne. Il est nécessaire de sensibiliser la population au maintien de l'intégrité de la nation indonésienne pour éviter la désintégration. Mahyudin a affirmé que Pancasila avait uni l'Indonésie dans la diversité de son peuple. La directrice générale des petites et moyennes entreprises, ou PME, du ministère indonésien de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, a déclaré que les meubles indonésiens attiraient les consommateurs internationaux parce que beaucoup d'entre eux ont participé avec l'enthousiasme à la Foire internationale du meuble et de l'artisanat de Jogja en Indonésie 2019 ou Jifina 2019. Jifina 2019 est la quatrième plus grande exposition de meubles en Asie. C'est ce qu'a déclaré Gati Wibawaningsi dans son communiqué de presse cité par Antara à Jakarta dimanche. Par conséquent, le ministère de l'Industrie par l'intermédiaire de la Direction générale des petites et moyennes entreprises continue d'aider les PME indonésiennes du secteur du meuble et de l'artisanat à participer à Jifina 2019. Cet effort peut encourager le développement et la facilité d'accès au marché national des petites et moyennes industries sur le marché mondial. Plusieurs nouveaux pays sont apparus comme nouveaux acheteurs lors du salon qui s'est tenu à Yogyakarta du 13 au 16 mars, à savoir le Burundi, l'Écosse, le Liban, la Biélorussie et certains pays de l'Union européenne. PT Angkasa Pura I et le Fonds mondial pour la nature de l'Indonésie ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de conservation et l'éducation environnementale dans le but de préserver l'écosystème terrestre. Cette coopération sera l'élan pour avoir un impact positif sur la planète. C'est ce qu'a déclaré le président de PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, à la presse de Tuban, Bali, lundi, cité par Antara. Selon lui, la société s'engage lors de la construction des aéroports à ne pas ignorer l'environnement afin de ne pas endommager les écosystèmes dans l'aéroport et ses environs. Fahmi a ajouté qu'un certain nombre d'entreprises se sont engagées à préserver les écosystèmes en plantant les mangroves autour de l'aéroport Ahmad Yani de Semarang et des arbres fruitiers dans le centre de Lombok. Rizal Malik, directeur général du Fonds mondial pour la nature en Indonésie, espère qu'avec cette coopération, les touristes pourront réduire l'utilisation des déchets plastiques qui devient un problème mondial. Le Centre de documentation et d'information scientifique de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, offre des possibilités de collaboration avec diverses parties pour accélérer la numérisation des travaux scientifiques ou des résultats de la recherche. C'est ce qu'a été dit par Hendro Subagio, le responsable par intérim du Centre des données et d'information scientifique de LIPI, dans une discussion publique transformée la bibliothèque à l'ère de la révolution industrielle 4.0 à Jakarta lundi. Selon Hendro Subagio, la coopération dans le domaine des données est importante pour encourager l'échange de métadonnées afin que les ressources de données puissent être complétées. Le principal obstacle à l'accélération de la numérisation est l'infrastructure et les ressources humaines. S'il obtient 100 scanners et 200 employés, la numérisation des travaux scientifiques il y a 5 ans ou plusieurs décennies peut être réalisée. La numérisation est importante car les besoins en information auxquels on accède numériquement augmentent. Le pavillon indonésien sous forme de la maison traditionnelle de Batak Toba a gagné le prix à l'exposition de fleurs de Hong Kong 2019, comme l'a rapporté Antara dimanche à Pékin. Le consulat général d'Indonésie à Hong Kong, Tariat, a exprimé sa gratitude pour le soutien de tout le peuple indonésien, si bien que l'Indonésie peut recevoir ce prix. La maison traditionnelle de Batak Toba a remporté la catégorie des expositions exceptionnelles à la plus grande et prestigieuse exposition florale de Hong Kong. Tri Tayat expliquait que chaque année, l'Indonésie propose toujours les différentes maisons traditionnelles afin de présenter diverses cultures indonésiennes aux Hongkongais et à d'autres citoyens étrangers. Serviteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selamat datang ten pour la rubrique suivante après le journal. Maintenant, nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la pression de l'Union européenne sur le CPO continue d'augmenter. L'Union européenne a longtemps fait preuve de discrimination à l'égard du palmier à huile, ou plus communément appelé CPO, et de ses produits dérivés pour la catégorie du mazout qui est accusé de nuire à l'environnement. Maintenant, leur pression augmente en ciblant le CPO et les produits dérivés dans la catégorie des aliments et des boissons. L'Union européenne a fait une étude sur les dangers de la teneur en huile de palme dans les aliments pour la santé. Cette étude a été soumise à l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO. Si cette étude est approuvée par FAO, il est probable que la circulation des produits alimentaires contenant de l'huile de palme dans le monde sera de plus en plus compliqué. En fait, la majorité des exportations de produits dérivés du CPO en provenance d'Indonésie sont utilisées sous forme de mélange d'ingrédients alimentaires. Le président du Conseil indonésien de l'huile de palme, Deron Bangun, craint que si la FAO approuve la recherche proposée par l'Union européenne, l'impact sera plus massif que celui de la politique de l'Union européenne en matière de discrimination du CPO dans le secteur de l'énergie. Ces préoccupations sont fondées. Pour la seule année 2018, le volume total des exportations de produits dérivés de CPO indonésiens atteint 28,14 millions de tonnes. Plus de 80% sont utilisés pour mélanger des ingrédients alimentaires. D'année en année, la demande mondiale de produits à base de CPO pour les mélanges d'aliments continue d'augmenter. Même les exportateurs de produits transformés CPO ciblent de nouveaux marchés, entre autres l'Afrique et le Moyen-Orient. Si le CPO et ses produits dérivés sont interdits en tant que mélange d'ingrédients alimentaires dans le monde entier, cela aura un impact sur la performance des exportations nationales non pétrolières et gazières de l'Indonésie. Parce que le CPO est toujours le pilier des exportations non pétrolières et gazières de l'Indonésie. L'impact est ressenti non seulement par les producteurs de CPO, mais également par les producteurs d'aliments et de boissons avec des mélanges de CPO. Face à cette situation, l'Indonésie et les autres producteurs de CPO ne seront pas en mesure d'entamer une action en justice devant l'Organisation mondiale du commerce, OMC, car son domaine est entré désormais dans le monde obligatoire. Les résultats de l'étude doivent être opposés à ceux de l'étude. L'Indonésie et la Malaisie, en tant que plus grands producteurs mondiaux de CPO, ont formé leurs propres études et recherches. L'objectif est que ces recherches soient terminées au milieu de cette année et soient bientôt publiées dans une revue internationale. Dans l'étude de l'Union européenne, le CPO a une contamination cancérigène bien supérieure à 4 microgrammes par kilogramme d'aliments ou à la limite autorisée pour les humains, tandis que les autres huiles végétales sont classées comme faibles. À présent, la tâche des producteurs de CPO tels que l'Indonésie est de prouver qu'avec les technologies les plus récentes, l'Indonésie peut en réalité produire du CPO qui présente le même degré de sécurité que les autres huiles végétales. L'Indonésie ne devrait pas tarder à contrer les attaques de l'Union européenne. S'il est trop tard, la sécurité économique nationale est en jeu. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 19 mars 1932, l'inauguration du pont de Sydney. Le pont de Sydney est la ligne principale pour traverser le pont de Sydney qui relie le centre des affaires de Sydney avec la zone au nord de Sydney. Sur le pont, il y a la ligne de chemin de fer, les véhicules automobiles, les bicyclettes et des trottoirs. Avec l'opéra de Sydney, le pont de Sydney est une icône de la ville de Sydney, l'Australie. Selon le livre Guinness des records, c'est le pont le plus large au monde, environ 48,8 mètres, et ayant la plus haute arche en acier, avec le sommet du pont situé à 134 mètres au-dessous des eaux. C'est aussi le cinquième plus long pont au monde pour les ponts en arche. Ce pont a été construit le 28 juillet 1923 et ouvert le 19 mars 1932. Le 19 mars 1949, la ratification d'une nouvelle constitution de l'Allemagne de l'Est. Le Conseil populaire dans la partie orientale de l'Allemagne, qui est occupée par les soviétiques après la Seconde Guerre mondiale, a ratifié une nouvelle constitution le 19 mars 1949, qui marque la mise en place de la séparation de l'Allemagne. Le statut Allemagne est devenu une source de conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques veulent que l'Allemagne soit désarmée, tandis que les États-Unis, qui commencent à voir les Soviétiques comme un rival, avaient l'intention de faire de l'Allemagne, qui dispose d'un arsenal complet, comme un pays pro-occidental. Lorsque la guerre mondiale a pris fin en mai 1945, les troupes russes ont occupé une grande partie de l'Allemagne, y compris Berlin. La ville de Berlin a été divisée en deux. Les soviétiques occupaient une partie orientale et la partie occidentale occupée par les États-Unis. L'invasion irakienne de 2003 sous le code l'opération Libération irakienne a officiellement débuté le 19 mars 2003. L'objectif officiel fixé par les États-Unis est de désarmer les destructions massives de l'Irak, de mettre fin au soutien de Saddam Hussein au terrorisme et de libérer le peuple irakien. Comme préparation, le 18 février, 100 000 soldats américains ont été mobilisés au Koweït. Les États-Unis fournissent une majorité de troupes pour cette invasion avec le soutien des forces de la coalition composée de plus de 20 pays et de Kurdes du nord de l'Irak. C'est cette invasion de l'Irak de 2003 qui a ouvert la guerre en Irak. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kulihat bintang di sana.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter la rubrique Modernisie. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Modernisie, intitulée « Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution de soutenir l'Afghanistan à l'initiative de l'Indonésie et de l'Allemagne ». Le Conseil de sécurité des Nations Unies, 15 mars, a adopté par consensus une résolution concernant le soutien à l'Afghanistan qui a été rédigée par l'Indonésie et l'Allemagne. La résolution prolonge le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, ou MANUA. L'ambassadeur et représentant permanent de la République d'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. Dian Tiansa Jani, a déclaré à la page de kemlu.go.id que c'était la première résolution de l'Indonésie adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis janvier 2019. À cette occasion, on a également souligné l'importance de la résolution qui donnait le mandat à l'agence de l'ONU à savoir de continuer des activités qui soutiennent l'Afghanistan et la réalisation de progrès dans le processus de paix, y compris le développement qui est la priorité du gouvernement afghan. La résolution comprend, entre autres, le rôle des Nations Unies dans le soutien à la paix et à la stabilité en Afghanistan, ainsi que l'engagement du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale, et l'unité de l'Afghanistan. La résolution fournit également le soutien au gouvernement afghan pour construire le pays et renforcer la démocratie. La résolution souligne également la centralité et le processus politique global inclusif et fait de l'Afghanistan une plateforme de coopération internationale. La prolongation du mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan au MANUA est important pour la coordination de diverses aides internationales, y compris pour fournir l'appui nécessaire à la préparation de l'élection présidentielle 2019 en Afghanistan. La résolution a été appréciée par d'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et par l'Afghanistan, qui ont expliqué le succès de l'Indonésie et de l'Allemagne de rédiger la résolution pouvant être soutenue par consensus par tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. En outre, l'ambassadeur Dian Tiansa Jani a également déclaré que l'unité du Conseil de sécurité des Nations Unies était importante pour signaler à l'Afghanistan que la communauté internationale soutenait pleinement l'Afghanistan. La résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réunion présidée par la France à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en mars 2019. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Meniti hari bersama meraih angan dan cita tercapai sudah. Dalam deru waktu
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Meilleur ami, chantée par Halma Hera. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter Brambang Asem, un plat typique du Java Central, notamment Solo et Semarang. Voyager à une région est moins complexe si vous ne goûtez pas la cuisine locale de la communauté. Si vous visitez la ville de Solo, Java Central comme par exemple, vous devriez essayer différentes spécialités culinaires de la communauté Solo. Le meilleur endroit pour goûter la diversité culinaire de Solo est Pasar Gede ou le marché de Gede. L'un des plus grands marchés qui est devenu l'icône de la ville de Solo n'est en effet pas uniquement un lieu d'achat et de vente d'ingrédients alimentaires. Des plats traditionnels sont également vendus ici. Parmi les différentes cuisines de Solo vendues à Pasar Gede, essayez de goûter les délices culinaires de Brambang Asem. Brambang Asem est constitué de feuilles de patates douces ou connues par les habitants de Solo sous le nom de jeglor. On utilise certainement les jeunes feuilles de patates douces. La façon de cuisiner Brambang Asem est très simple. Les feuilles de patates douces fraîches sont d'abord bouillies. Le processus d'ébullition n'est pas bref. Il suffit de la plonger dans l'eau bouillante. Et ensuite, pour le sambal ou la sauce de piment, brambang ou ce que l'on appelle l'oignon est brûlé et puis écrasé avec du tamarin, du sucre brun, du sel, de la pâte de crevette et du piment. Une fois servi, le sambal en purée est ensuite versé sur des feuilles de patates douces bouillies. Parce que l'on utilise de l'oignon rouge et de l'acide, ce plat s'appelle Brambang Asem. Brambang Asem est généralement servi avec du tempeh gembus et des krakelang karak. Tempeh gembus est fait du poivre de tofu fermenté. Lorsqu'il est consommé, son goût sucré, acide et épicé se mélange. En plus de son goût unique, son prix est relativement bon marché, ce qui rend cet aliment très populaire. Brambang Asem est vendu ₹5,000 par portion et d'habitude, les commerçants vendent Brambang Asem du matin au soir. Non seulement au marché de Gede ou à Pasar Gede, ce plat typique de Solo est également vendu au marché de Gros Solo. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.
Voice of Indonesia.
Waktu
Zekete toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée Nouvelle étape chantée par Lala Suages. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, comme d'habitude, nous allons vous présenter Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est l'okasi, ou en langue française, lieu. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un petit titre, l'okasi, ou en langue française, lieu. Tony est dans la région du temple Prambanan avec un guide. Il parle du nom du temple dans la région du temple Prambanan.
Mbak, candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan candi Siwa.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir l'okasi. L'okasi, en français, lieu. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Chandi. Chandi, en français, temple. Apa nama chandi yang ada di tengah? Apa nama candi yang ada di tengah? En français, quel est le nom du temple au milieu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. En français, à droite. Sebelah kiri. Sebelah kiri. En français, à gauche. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. En français, le temple Wisnu est à droite du temple Siwa. Pour mentionner la position d'un objet, d'un bâtiment ou de quoi que ce soit, vous pouvez dire A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. En français, A est à droite de B. Ou A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. En français, A est à gauche de B. Dans le dialogue, le guide touristique a dit Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. En français, le temple Wisnu est à droite du temple Siwa. Pour demander le nom de quelque chose, par exemple, le nom du temple, en fonction de sa position, par exemple, dit Candi apa yang ada di tengah? Candi apa yang ada di tengah? En français, quel temple est au milieu? L'autre exemple, si vous voulez connaître le nom d'un arbre, dites pohon apa yang ada di belakang? Pohon apa yang ada di belakang? En français, quel arbre est derrière? Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Mbak, candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau Candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Cher ami, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Yang bertahan kulihat kenyataan yang ada semua tak pernah
Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, c'était une chanson intitulée « Je suis à tes côtés » chantée par Jaffa Jaif. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Sekjami de katakong dumong to bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanson malaise intitulée Pilu Dasmidar Darwis. Cette chanson a été créée par Hussein Aidit avec des arrangements musicaux de Bus Lidl. Conformément au titre, elle raconte la tristesse de quelqu'un qui a été quitté par l'amoureuse. La chanson est lente avec une musique mélancolique en accord avec les paroles. La chanson intitulée Pilu est dans l'album spécial des chansons de Melayu mélancolique. Dasmidar Darwis est connu comme un chanteur des chansons rythmées psalterion et malaise. La chanson populaire dans les années 1970. Bon, serviteur, voici donc la chanson Dasmidar Darwis intitulée Pilu. Bonne écoute et à demain.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers amis, cette l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.